Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe du vendredi. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Marion, votre choix de l'actu du jour.
Édouard Philippe a croisé Jean-Luc Mélenchon au Salon du Livre. Et qu'est-ce que dit un ancien Premier ministre à quelqu'un qui s'y verrait bien ? Vous le saurez dans un instant.
Patrick, votre édito ce soir.
Je vais rembobiner la campagne présidentielle pour revoir quelques moments médiatiques qui ont révélé une part de vérité des candidats sous la forme de questions, de bonnes questions dans des interviews.
Bonnes questions posées par de bons journalistes. On en reçoit deux ce soir, voilà. Apolline de Malherbe, qu'on écoute du lundi au vendredi sur RMC, qui sera aux commandes d'une soirée spéciale électorale dimanche dès 19h, et David Pujadas, qui est du lundi au jeudi de 18h à 20h sur LCI. Ils seront dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
La justice française a émis ce matin un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn. Il se défend ce soir dans cet avis.
Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Il attaque ce soir dans C'est à vous. C'est Michel-Édouard Leclerc sur le pouvoir d'achat. Il est contre la loi Egalim. Vous savez qu'il lui impose 10% de marge sur tous les produits depuis 2018. Il demande à ce qu'on revienne sur cette loi. Évidemment, par rapport à l'inflation, on va en parler avec lui. Il sera ici.
Il sera tout à l'heure sur le plateau. Et Pierre, dans votre œil.
Avec vous, mes amis, je saluerai Jacques Perrin, un comédien et un producteur remarquable, un passionné de nature, une vie droite et multiple.
Jacques Perrin, l'hommage de Pierre, juste après 20h. Nos invités ce soir du dîner, Yann Arthus-Bertrand, Nikos Aliagas, Jean-Marie Perrier, Sonia Sieff, quatre grands photographes. Voilà, on leur donne la parole à tous ces photographes, spécial photographe, occasion pour moi de sortir mon Pola. Alors attention, on y va, on pose, 1, 2, 3. Mohamed, penche-toi un peu plus, sinon je t'ai pas. Voilà. Bon, ce ne sera pas la plus belle. Ce qui est sûr, c'est ce qui sera bon, c'est ce qu'on aura dans une assiette. C'est le...
Ouh, il y a quelque chose qui est sorti.
C'est le petit oiseau. C'est le petit oiseau.
Oh, vous allez voir, c'est une... Oui, oui, oh non, on ne montre pas ça. Linda Trin est aux commandes des cuisines de C'est à vous depuis le début de la semaine. De l'avocat ce soir encore, chère Linda.
Toujours, et encore. Et pour notre dernière soirée ensemble, on va sortir du classique. Je vous propose de revoir un peu complètement l'avocat d'Otos, puisqu'en lançant Avocataria avec mon associé Alex, on a toujours voulu revoir les codes de la food et surprendre avec des recettes originales. Donc ce soir, je vais vous épater avec une pure création originale d'Avocataria.
Merci, chère Linda, la chef et cofondatrice d'Avocataria. Voilà. C'est fini. À partir de ce soir minuit, c'est silence radio. Déclaration de candidat, réunion publique, distribution de tracts, publication de sondages, tout sera interdit jusqu'à dimanche 20h et la publication des résultats. Voici donc quelques-unes des dernières images des deux finalistes à l'élection présidentielle. Marine Le Pen à Étaples, dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron à Figeac, dans le Lot.
Merci.
Voilà.
Merci.
Voilà. Allez, on retourne.
En avant, les gars.
J'ai à nouveau ma mèche rebelle, qui est un acteur de la campagne.
À dimanche, hein.
Merci.
Dimanche. Je compte sur vous, hein.
Oui.
À dimanche.
Oui, oui, oui.
Si tout le monde se mobilise, ça va passer.
On va y aller, on va y aller.
Félicitez-vous d'être dans une démocratie où vous pouvez interpeller un président en fonction et un candidat comme ça. Et j'espère que ça pourra continuer, parce que le 24 avril, avec une autre candidate, ce sera un autre choix.
Les Français, avec Emmanuel Macron, vont donc en prendre pour perpète.
C'est le melon du Maroc, mademoiselle Le Pen, ah. Ça va.
Alors on va goûter.
Bon, on va goûter.
Mais donc, qu'est-ce qu'il nous faut continuer de faire ?
Je crois qu'on a fait une très belle campagne. On a fait une campagne de proximité, une campagne de terrain. Et non, j'ai pas de regrets dans cette campagne.
Je finirai là-dessus. Le 24 avril, ce sera un référendum pour savoir si nous voulons être fidèles à cette histoire ou pas. Je veux l'être avec vous.
Apolline de Malherbe à la tête d'Apolline Matin. C'est tous les jours de 6h à 8h sur RMC à la radio RMC.
De 6h à 9h.
De 6h à 9h.
Bah oui, il y a 3h.
Bah oui, il y a 3h parce qu'en plus de 8h30 à 9h30, il y a
l'interview sur BFM.
RMC à la radio, RMC Story à la télé. Dimanche, aux côtés de Maxime Switek pour la soirée électorale. Maxime Switek qui était il y a encore quelques minutes en tête à tête avec Emmanuel Macron. David Pujadas, 24 heures Pujadas, du lundi au jeudi de 18h à 20h. Et le vendredi, vous êtes libre, donc du coup, vous venez à C'est à vous.
Moi, je produis l'émission, je suis producteur, où je la présente aussi, mais je travaille quand même le vendredi.
Merci
mais je suis là avec grand plaisir.
Merci de votre présence à tous les deux pour faire le bilan de cette campagne qui est, c'est sûr, scruté par le monde entier. Il y a un enjeu particulier pour cette présidentielle. Juste un mot là sur cette campagne jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. L'enjeu, c'est de quoi ? D'essayer de convaincre les abstentionnistes, de mobiliser, alors qu'à partir de demain, c'est vacances scolaires pour toutes les zones.
C'est moins que ça n'a été, parce que moi, je me souviens d'avoir suivi sur le terrain, pour le coup, la campagne de François Hollande en 2012. Et ça m'avait beaucoup frappé. Ce même jour, c'est-à-dire le tout dernier vendredi de l'entre-deux-tours, François Hollande, il avait fait 2 meetings dans la journée. Et il en avait fait un dans le Grand Est, un deuxième dans le Sud-Ouest, de mémoire. Moi, je suivais celui du Sud-Ouest. Et je faisais des duplex et je me souviens encore de lui regardant sa montre et disant « Il est 22h30, il me reste 1h30 », disant « Il est 23h15, il me reste 3/4 d'heure ». Et jusqu'à 23h55, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême dernière seconde de campagne officielle, il était sur les planches et il disait « Si je peux en convaincre encore un ou deux », il y avait une vraie envie. À l'inverse, Nicolas Sarkozy, président sortant, candidat à sa réélection, avait fait son dernier meeting, je crois, ce jour-là, à midi au Sable d'Olonne. Et après, il avait plié bagages, il était rentré, on avait juste vu sa voiture rentrer dans son impasse dans le 16e.
Morale de l'histoire.
Et je m'étais dit, en fait, quand même, à un moment, il faut avoir envie. Et il y en a un qui, pleinement, jusqu'à la dernière seconde, s'était dit, je vais tout donner.
Bon, et là, si on peut en tirer des conclusions, là, Marine Le Pen, elle a fait campagne, elle est partie un peu plus tôt, là, les dernières images sont un peu plus,
non, mais après,
un peu plus tôt dans l'après-midi que celle d'Emmanuel Macron.
Pas sûr que ça se joue à quelques heures, les dynamiques sont déjà là, mais si vous, vis-à-vis de votre propre camp, vous n'êtes pas là le dernier jour, c'est que vraiment vous donnez l'impression de ne pas avoir énormément d'appétit, quoi. Donc c'est un peu une figure imposée. Après,
c'est l'image.
Les heures et tout.
Ils ont tous les deux rajouté depuis 10 jours des événements qui n'étaient pas prévus au départ à leur agenda pour se donner la réplique par image et par déplacement interposé.
Mais dans des endroits précis, Marine Le Pen à nouveau en terrain conquis. Dans la Somme, là où elle avait fait des super scores. D'ailleurs, dans l'entre-deux-tours, c'est ce qui a été systématique chez elle. Elle n'a pas raté une occasion, là ?
Mais c'est parce que ça correspond à sa stratégie de campagne. Marine Le Pen, surtout, c'est pas de vagues, pas de polémiques, pas de colère, pas de risque. Elle a tendance à privilégier les endroits où elle est un peu, effectivement, en terrain conquis. Emmanuel Macron, lui, il cherche plutôt à paraître comme vulnérable, comme malmené même, ça l'arrange parce que ça rend
humain. On a encore vu cette image-là cet après-midi, interpellée.
Et il adore, enfin, il va chercher ça d'une certaine manière parce que ça l'humanise, c'est ça qu'il cherche. Chacun ses priorités de dernier moment.
Jusqu'alors, il était peut-être trop lisse, justement, ou en tout cas, il avait l'air que pour lui, c'était trop facile. Donc, dans un sens, il avait besoin de ça, exactement à l'inverse d'elle. C'est d'ailleurs le problème du débat. Le débat, en fait, elle veut tellement pas prendre de risques, elle veut tellement qu'en fait, elle subit un peu, quoi.
Bon, un événement peut toujours en cacher un autre. Dimanche, c'est le jour de l'élection, mais ce soir, c'est un autre événement qu'on vous propose de vivre en direct avec
vous
nous.
De la chance.
Avant l'antépénultième mercredi, le pénultième hier, voici donc le dernier édito de Patrick Cohen avant le deuxième tour, et ça mérite bien un jingle. Patrick, pour votre dernier édito présidentiel. Vous avez choisi quelques moments médiatiques de cette campagne qui s'achève.
Oui, ce n'est pas un édito, là, pour le coup, parce que ce n'est plus l'heure de décortiquer les programmes, mais c'est une sélection en forme d'hommage aux intervieweurs que vous êtes, aux intervieweurs politiques, parce qu'à côté de la propagande dont on vient de parler, discours de meeting, visite de terrain sécurisé, rien ne remplace une bonne question et une relance ajustée. J'ai donc choisi des interviews ou des fragments d'interviews qui ont révélé à chaque fois une part de vérité des candidates et des candidats. Premier exemple, Éric Zemmour, ce n'est pas une interview de campagne, mais une phrase qu'il a prononcée face à Nicolas Bétou de l'Opinion et qui, 3 ans après, a contribué à plomber sa candidature.
Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après.
Vous rêvez 1815. D'un Poutine français?
Ah oui, j'en rêverais, oui. Mmh.
Vous rêvez d'un Poutine français, très bonne intuition Nicolas Bétou, avec une réponse qui a sans doute contribué à précipiter la chute de Zemmour après l'invasion de l'Ukraine. Et pendant ce temps, chez Marine Le Pen.
Si vous êtes élue présidente de la République, ce sont vos chats ou votre colocataire que vous emmenez au palais présidentiel?
Je mettrais peut-être mes chats à la lanterne.
Ah, vous voyez, oui, donc vous y avez déjà réfléchi, c'est ça?
Non, parce que j'ai un peu peur qu'ils sortent, parce qu'on voit beaucoup de monde quand même à l'Élysée. Oui. Les portes s'ouvrent souvent et je ne voudrais pas qu'ils puissent s'enfuir, par exemple, aux alentours et les mettre en danger, alors qu'à la lanterne, ils seraient plus protégés.
Marine Le Pen, vous en parliez, David, et sa campagne Miaou qui a réussi au fil d'interviews apaisée à faire croire qu'elle avait changé et à gommer les aspects les plus radicaux et polémiques de son programme. Les questions abrasives sont venues sur le tard. L'emprunt russe du Rassemblement national, j'ai remontré hier cet échange avec Anne-Sophie Lapix qui a été l'un des rares incidents de plateau avec Marine Le Pen sur France 2 à Élysée 2022. Question infamante, s'indignait-elle, que vous avez reposée hier matin à Pauline de façon très habile à Jordan Bardella.
Pour avoir des amis dans les banques pour se faire traiter.
C'est Emmanuel Macron a beaucoup plus de facilité à obtenir les financements de sa campagne que nous. Je pense que ça n'aura échappé à personne.
Oui,
bien sûr que c'est politique.
Donc c'est politique quand une banque russe décide de vous soutenir.
Bien sûr, mais ça n'est
c'est
pas
le même argument.
Mais ça veut dire que quand un étranger obtient un prêt.
Il y a donc une intention de la part du banquier russe qui vous prête.
D'abord, permettez-moi.
Puisqu'il y a une intention de la part du banquier français qui ne vous prête pas.
Jordan Bardella et le Rassemblement national dans le piège de l'emprunt russe. Pour Valérie Pécresse, pas de faux pas notable en interview, en tout cas je n'en ai pas gardé le souvenir, c'est une propagande ratée là, qui l'a plombée, ce grand meeting du Zénith, sur lequel elle a dû s'expliquer ensuite à chaque interview, ici à France Info, face à Marc Fauvel.
Est-ce que vous avez un regret dans cette campagne, une chose que vous avez trouvée injuste ou ratée?
Oui, bien
dans
sûr.
Dans votre campagne.
Bien sûr, ce meeting du Zénith où j'ai essayé de parler comme un homme et où, 5 jours plus tard, j'ai retrouvé, j'allais dire, mon naturel en prenant le
ça
micro.
Ça veut dire quoi, j'ai essayé de parler comme un homme?
Mais j'ai repris mon micro et j'ai dit ce que j'avais au cœur. Vous savez, ce qui est important pour les Français, c'est d'avoir un ou une présidente de la République qui, quand il y a un coup dur, non seulement se relève, mais il va et montre sa solidité et sa sincérité.
Bon, elle ne s'est pas complètement relevée. La relance s'imposait de Marc Fauvel, mais on ne saura pas ce qu'est parler comme un homme à un meeting. C'est aussi lors de ses interviews qu'Anne Hidalgo a très vite montré qu'elle n'avait pas le niveau. Ici, assez dans l'air sur les questions internationales face à Caroline Roux.
Donc si Vladimir Poutine attaque, on ne fait rien? Question de Michel dans les Hauts-de-Seine.
Qu'il attaque quoi? Paris, la France, voilà.
L'Ukraine.
Bien sûr qu'il faudra être aux côtés des Ukrainiens.
Voilà, enfin, un candidat, et non des moindres, a répondu à très peu de questions, comme pendant son quinquennat. Et c'est un problème, je crois. On lui a dit d'ailleurs, 50 jours de campagne seulement pour Emmanuel Macron. Et ce matin, face à l'insistance de Thomas Legrand sur France Inter, la promesse, enfin, de fixer un cap, de tracer un chemin pour l'avenir et de gouverner autrement.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour mieux définir le macronisme au jour le jour, vous puissiez avoir des débats avec des hommes politiques ou alors des interviews, des vraies interviews? Il y a cette idée et qui a donné une image un peu d'arrogance. C'est une image qui vous colle un peu à la peau aussi.
Oui, surtout si on la remet à chaque fois. J'ai compris que c'était un argument politique de certains. J'entends ce que vous dites qui m'appartient de définir plus précisément les objectifs. Nous allons le faire. Deux, qu'il faudra, si les Françaises et les Français me font confiance, rénover plus en profondeur la manière d'exercer la fonction présidentielle. Et que je sens bien qu'il y a eu un décalage entre le renouvellement politique que j'ai incarné et le classicisme de l'exercice de la fonction. Je vous entends.
Voilà, je vous entends. Enfin, c'est une promesse, ça ne vaut que pour une promesse, mais qui Emmanuel Macron qui entend les critiques seulement à quelques heures de la fin de campagne, faute aussi d'avoir été soumis à des questions, des émissions qu'il n'a pas fait. En tout cas, il est le candidat qui a fait le moins d'émissions et le moins d'interviews.
Il n'y a pas eu une émission où il a réellement répondu de son bilan, pas de ses promesses, il en a répondu un peu plus tard,
bien sûr.
Mais où il a répondu de son bilan.
C'est vrai.
Et avant le premier tour, parce que C'est l'Élysée qui le disait, 6 heures par jour sur l'Ukraine. Et depuis le premier tour, parce que ça s'y prête moins, je ne sais pas. Mais enfin, et ça lui manquera pendant son deuxième quinquennat, s'il est réélu.
De ne pas avoir soldé en quelque sorte cet inventaire.
De ne pas avoir parlé, répondu sur ses fragilités, sur les fragilités de son bilan passé. Ça lui reviendra forcément en boomerang.
Il l'a fait à TF1 en décembre.
Il l'a fait à TF1, mais c'était très axé sur sa relation aux Français.
Mais sans assumer. Non, pas Darius Rejani.
C'est à ça que je pensais. Non, mais sur TF1, c'était un quart d'heure. Quand il, a,
non,
quand il y a eu les 8.
L'émission du mois de décembre avec
Darius
et Anne Claire. Oui.
Mais c'était sur un angle bien particulier qui était sa relation aux Français. Et on a tellement tendance à accorder une importance démesurée aux questions psychologiques. Alors, vous êtes arrogant, les petites phrases, les machins. Quand on oublie la big picture, c'est-à-dire quand même ce qui a été fait ou pas fait.
Non, et puis moi je crois beaucoup.
Il n'est pas venu d'ailleurs au micro.
Non, il n'est pas venu. Franchement, c'est un grand regret. C'est un regret pour moi. Honnêtement, je pense qu'il fait une connerie. C'est-à-dire, je pense que RMC, en l'occurrence, RMC et BFM TV le matin à 8h30, c'est un rendez-vous très franc. C'est un vrai moment d'échange. Je le dis souvent, mais parce que la plupart des interviews le matin, que ce soit dans toutes les radios ou les télés, il y a plein de monde autour de la table, c'est d'un studio, il y a des gens qui passent. L'interview de 8h30 sur RMC BFM TV, on est à portée de claque. Mais vraiment, il y a un côté, c'est un vrai face-à-face. Il n'y a aucune fioriture, il n'y a pas de gadget, il n'y a pas d'image. Il y a uniquement des questions et des réponses. Et comme vous le disiez à l'instant, je crois beaucoup au rôle quand même de l'échange, de la contradiction, à notre rôle à nous. Moi, quand j'arrive à cette interview, je suis nourrie par toutes les questions et par toutes les remarques des auditeurs qui appellent le matin et qui appellent avec ce qu'ils sont. Ils appellent, ils sont en train d'emmener les enfants à l'école, ils ont la pression de leur boulot, ils disent tout ça, et quand j'arrive à 8h30, je suis nourrie de tout ça. Il aurait pu entendre cette France-là, il ne l'a pas fait, je pense que c'est dommage.
Et puis, il n'y a pas eu de débat avec les 12 protagonistes avant le premier tour, ça a manqué?
Oui, ça a manqué aussi. Au final, si vous voulez, d'une certaine manière, le seul moment où il aurait pu être réellement challengé sur l'ensemble de son œuvre passée et peut-être future, éventuellement, c'était le débat de mercredi avec Marine Le Pen. Or, Marine Le Pen, sa stratégie a fait qu'elle était disposée à tout sauf à ça. Elle avait dit, lors du premier débat en 2017, j'ai trop parlé de lui et je n'ai pas assez parlé de moi. Et cette fois, elle a parlé d'elle et elle n'a pas parlé de lui. Résultat, je pense que oui, il y a une petite frustration. Alors, pour tout un tas de raisons, il est le grand favori. On y reviendra peut-être.
Ouais.
Mais je pense que ça va manquer et que ça va lui manquer à lui.
Mais on va le prendre en mot. Peut-être qu'il viendra après.
Mais vous avez raison.
Vous êtes le bienvenu, monsieur le président. Si jamais vous êtes réélu.
Mais vous avez raison, David. C'est la faute de Marine Le Pen. J'ai évoqué ici plusieurs fois le débat auquel a participé le dernier président sortant à se représenter, Nicolas Sarkozy, en 2012, face à François Hollande. Les deux tiers du débat, ça, évidemment, ça porte sur le bilan du quinquennat Sarkozy écoulé.
Bon, la campagne s'est quand même accélérée une fois qu'il a été candidat, c'était il y a 50 jours seulement. Mais c'est une image qui date d'avant sa déclaration de candidature que vous avez retenue, David. Je crois qu'il n'était pas candidat.
Non, il ne l'était pas encore. Effectivement, il ne l'était pas encore.
Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы очень рады приветствовать в Кремле, принимать в России президента Французской Республики господина Эммануэля Макрона.
C'est un tournant dans cette campagne?
Oui, en fait, vous nous avez demandé de choisir une image, peut-être qui résume ou la plus importante de la campagne. Et celle-là, je pense qu'elle résume deux faits majeurs de cette campagne. Le premier, c'est que Emmanuel Macron est seul. Je pense qu'Emmanuel Macron est seul auprès des Français. Il est le seul que les Français, dans la configuration de cette élection présidentielle, imaginaient comme possible président de la République. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. François Fillon, les Français l'imaginaient président de la République. Il n'est pas gagné pour plein de raisons, mais en 2012, les Français imaginaient François Hollande, d'ailleurs il a été élu.
Ou Nicolas Sarkozy.
Possiblement président de la République. Là, il faut bien reconnaître qu'à tort ou à raison, et je pense que c'est le fait majeur de cette présidentielle, Emmanuel Macron était en quelque sorte le seul qu'ils imaginaient. Marine Le Pen, les Français peuvent la juger sympathique, courageuse, à tort ou à raison encore une fois, mais la présidentiabilité, ils ne lui accordent pas. Jean-Luc Mélenchon, les Français peuvent le juger très bon orateur, charismatique, mais la présidentialité ne lui accorde pas. Je ne parle pas d'Éric Zemmour. Donc d'une certaine manière, il était seul. Et le deuxième fait qu'elle résume, c'est la guerre en Ukraine qui a eu un impact énorme sur cette campagne. D'abord parce qu'elle a empêché, justement, elle a quand même zappé une partie de la campagne et le fait qu'il n'y ait pas eu de vrai débat avant, je pense que c'est lié beaucoup à ça aussi. Et puis parce qu'elle a renforcé cette solitude, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est apparu, et finalement, c'est là-dessus que se joue beaucoup la présidentielle. Ouais. Il est apparu comme le seul, aux yeux des Français, à pouvoir incarner le leadership quand il y a des crises comme celle-là. Donc voilà pourquoi j'ai
choisi cette image. Apolline, vous avez retenu deux images qui concernent deux candidats éliminés au premier tour.
Marseille qui n'a pas voulu de la visite d'Éric Zemmour ce week-end. Déplacement chahuté par des manifestants qui l'attendaient de pied ferme, certains antifascistes. Tout cela s'est conclu par un échange de doigts d'honneur capté par un photographe. L'image restera. Éric Zemmour a d'abord assumé avant de reconnaître que le geste était, je cite, « fort inélégant ».
Le doigt d'honneur de Zemmour et l'hologramme de Mélenchon.
D'abord, pourquoi ? Parce que je trouve que Macron et Marine Le Pen, qui sont tous les deux au deuxième tour, il n'y a pas d'image hyper forte. Il y a cette image en tant que président, mais dans la campagne, dans ces moments de campagne, je ne trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse résumer l'un ou l'autre. En revanche, je trouve que la campagne telle qu'elle a commencé beaucoup plus tôt, parce qu'il y a eu une vraie campagne à l'automne. À l'automne, il y a eu tout d'un coup la comète Zemmour qui a déboulé dans le débat public, qui a franchement pris le lead des questions, c'est-à-dire que tous les autres étaient obligés de courir derrière pour dire oui, pour dire non, y compris nous, d'ailleurs, journalistes, hein, parce qu'il y a eu vraiment, il a eu cette place jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi, ce moment, il montre ce moment où, en fait, il prend la confiance et il a, dans les, à peu près les mêmes jours, il y a eu ce doigt d'honneur, il y a eu la Kalachnikov qu'il a prise dans un salon d'armes. Et puis, il y a eu ce moment vraiment infamant où il a été devant le Bataclan, où je pense honnêtement que ça a été vécu comme une injure pour tous les Français, parce que devant le Bataclan, au moment de l'anniversaire du massacre, et dans ce moment dramatique, il a laissé entendre qu'au fond, c'était la faute de François Hollande. Il a parlé d'une responsabilité, alors que jusqu'alors, sur ces questions-là, il y avait vraiment... Tout le monde était solidaire, en fait. On ne pointait pas. Donc, ce moment-là, pour moi, est un tournant. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans un truc un petit peu... il cherche une espèce de bagarre qui le fracasse dans sa campagne et qui, d'ailleurs, correspond à peu près à la chute. Pourquoi Mélenchon ? Parce que je pense que Mélenchon est vraiment le personnage aussi de cette fin de campagne, qu'encore aujourd'hui, il va être dans un rapport de force et il va continuer à jouer. Et en fait... Avec cet hologramme, je trouve qu'il est le seul à avoir été un peu créatif sur la forme. On parlait tout à l'heure de Valérie Pécresse, qui honnêtement s'est retrouvée dans un exercice qui n'était clairement pas fait pour elle, qui est un exercice ennuyeux à périr, qui est cette espèce de grand meeting où elle s'est sentie obligée de faire un discours lambda. Je trouve que Mélenchon est beaucoup plus créatif. Il adore la technologie, il adore les gadgets, il invente des trucs. Et ça compense le fait qu'il est l'un des plus âgés de cette campagne, si ce n'est le plus, mais ça, je ne suis pas là. Mais qu'il est toujours du côté d'une forme de modernité, à l'inverse de la nostalgie d'un Zemmour.
Bon, vous le disiez tout à l'heure, c'est plié, c'est ça ? Parce qu'Emmanuel Macron, il disait rien n'est joué. Il le dit encore aujourd'hui, rien n'est joué, rien n'est joué.
Et c'est normal, puisque c'est normal. Le ressort, une partie du ressort d'un... gros score d'Emmanuel Macron, s'il a lieu, c'est justement la crainte que Marine Le Pen puisse passer. Donc, il joue ça et c'est de bonne guerre. La vérité, c'est que les médias en ont fait un peu trop, je pense, sur « attention, c'est très serré, Marine Le Pen peut passer ». Alors, il faut être prudent parce que les dynamiques électorales, ça peut... on l'a vu parfois dans le passé. Mais il faut bien reconnaître que Emmanuel Macron est le grandissime favori. Et que la plupart des enquêtes d'opinion vont dans le même sens, que la dynamique, elle est du côté d'Emmanuel Macron.
Il n'y aura pas de surprise à la
Donald Trump. Il a fait un gros score au premier tour. On l'a sous-évalué, mais il a fait un très gros score. Il a gagné 1 100 000 voix par rapport à il y a 7 ans pour un président sortant, soi-disant détesté, etc. Et encore une fois, à tort ou à raison, c'est un très gros score. Et ça lui a donné une dynamique... Pour le deuxième tour.
Les médias et les sondeurs n'avaient pas tort de dire qu'au soir du premier tour, il y avait une possibilité statistique que Marine Le Pen l'emporte, ce qui n'est jamais
arrivé. Surtout qu'on s'est intéressé à Marine Le Pen
pour ce camp.
Et oui. Vous le disiez vous-même, quand vous avez dit dans le même temps, c'était une Marine Le Pen qui parlait de ses chatons qui allaient rentrer à l'Élysée, c'est vrai que jusqu'au premier tour, on s'est mis à dire que Zemmour avait joué le rôle de paratonnerre. Mais c'est vrai, Zemmour a concentré, y compris notre attention. Je fais là-dessus une forme de. C'est pas un mea culpa. pas, parce que je pense que les Français eux-mêmes se sont passionnés pour ça.
Mais on n'a pas assez décortiqué le programme de Marine Le Pen.
Il était comme un écran, et je pense vraiment qu'au soir du premier tour, c'était très serré. Depuis, sa campagne, le débat qu'elle n'a certes pas perdu, mais qu'elle n'a pas gagné, font aussi qu'il y a une différence de compétences qui est apparue. Moi, je trouve, visiblement, on n'est pas d'accord là-dessus. En revanche, moi, je ne dirais pas du tout que c'est plié. Je trouve qu'il y a quand même une forme de liberté et de rébellion chez les Français aujourd'hui qui ne supportent pas qu'on leur dise, qu'on les juge, qu'on leur dise que c'est des méchants s'ils votent Marine Le Pen et que c'est des gentils s'ils votent Emmanuel Macron.
Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus.
Je trouve d'ailleurs que ça ne devrait pas être notre rôle. Notre rôle est de montrer les contradictions. Je l'ai fait, vous l'avez montré. Notre rôle est de montrer quand il y a des grandes failles dans le... Mais ensuite... Qui sommes-nous pour juger des Français ? Qui sommes-nous pour leur dire s'il faut voter bien ou mal ? Je ne sais pas ce que c'est que de voter bien ou mal. En tout cas, moi, en tant que journaliste, je respecte le peuple.
Pour aller même au-delà, l'antifascisme d'opérette qu'on a vu et entendu un peu partout, et surtout cette unanimité, mais pas une unanimité, comme tu dis, effectivement, pour critiquer, pour pointer les contradictions, non, une unanimité pour dire « attention, danger, 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 danger ». Je pense que, d'une part, c'est contre-productif, et d'autre part... forcément, ça accroît le fossé entre les médias et une partie des Français.
Pierre.
Le monde entier, en tout cas, ne se pose pas tout à fait la question de la même manière, puisqu'il a les yeux fixés sur nous et les médias en particulier. Petit exemple, comme moi, vous lirez les sous-titres et vous écouterez le délicat accent British, la BBC aujourd'hui...
Révélateur.
La BBC aujourd'hui qui présente aux Britanniques une candidate qu'ils ne connaissent sans doute pas très bien.
Bonjour. Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Could this be France's next president ?
Voilà les filles.
Marine Le Pen. Patriotic woman of the people visiting France's forgotten villages. Or far-right nationalist hiding behind a carefully reinvented softer image.
Un reportage de plus de 5 minutes en tout pour expliquer les enjeux d'un vote, mais neutralité oblige, la BBC reste factuelle, ce qui n'est pas le cas de tous les médias anglais. L'hebdomadaire The Economist a carrément publié un éditorial intitulé « Pourquoi Macron importe, au sens est important ». L'hebdomadaire a une position claire. Sans surprise, le quotidien britannique The Guardian a mis en garde contre une arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Quant au quotidien américain The Washington Post, il raconte que pour beaucoup d'observateurs européens, il reste encore une raison de transpirer. Le site de BFM notait ce matin le long entretien d'Emmanuel Macron publié dans le Corriere della Sera. Mais le plus spectaculaire, c'est cette tribune collective parue dans Le Monde où les premiers ministres portugais et espagnols ainsi que le chancelier allemand exhortent les Français à un vote, je cite, qui défende les valeurs européennes. C'est assez spectaculaire et c'est exceptionnel.
Oui, moi, je n'ai pas de souvenir de précédent.
Moi, je voudrais quand même juste dire un truc sur les Anglais, parce qu'ils me font bien marrer. Ils nous font la leçon, les Anglais, mais enfin, on a quand même appris cette semaine que Boris Johnson allait externaliser au Rwanda ses clandestins. S'ils disent que Marine Le Pen est un danger, moi, j'aimerais bien qu'ils balayent aussi devant leur porte. Ils ont quand même fait des choix avec la sortie de l'Union européenne. Ils ont fait des choix avec... Moi, je trouve, on en parle très peu, mais là, ce choix de faire ce contrat avec le Rwanda est un truc délirant.
Le Guardian a violemment protesté.
Le Danemark fait la même chose.
Ça nous paraîtrait à nous, je pense, honnêtement assez monstrueux. Donc je trouve que chacun doit regarder...
Mais on parle de médias britanniques qui se sont eux aussi réveillés le lendemain du vote du Brexit.
C'est pas sur ce plan-là, je pense, qu'ils estiment que l'élection de Marine Le Pen serait une catastrophe. C'est pas sur ce plan-là, je pense.
Peut-être parce qu'aussi eux-mêmes ont vécu la sortie de l'Europe.
Pas les Britanniques.
Non, mais The Economist, c'est un défenseur.
C'est pas mal, quand même.
De l'Union européenne. Et c'est sur le plan business. Sur le plan business. Enfin, sur le plan de l'économie, sur le plan des...
En bon british qu'ils sont.
Voilà, sur le plan...
Oui, voilà.
Sur le plan économique, ils s'inquiètent,
Brigitte. Alors, le troisième tour commence dimanche soir à 20h01. Et Jean-Luc Mélenchon est déjà bien lancé dans cette bataille des législatives. Pour l'anecdote, celui qui se verrait bien Premier ministre était cet après-midi au Salon du Livre où il a croisé un ex-Premier ministre qui lui a dédicacé ainsi son dernier ouvrage « Pour Jean-Luc, ses impressions et lignes claires sur ce que gouverner veut dire affectueusement ».
Affectueusement.
Il ne faut jamais insulter l'avenir, c'est justifié Édouard Philippe. « J'arrive », lui a répondu Jean-Luc Mélenchon, en grande forme donc. Le leader insoumis était hier soir à la Maison de la Chimie, entouré des siens et plus combatif que jamais.
Il y a des millions de gens qui sont en train de couler. Parce que l'inflation a plus de 4%, parce que le prix à la pompe, parce que le prix dans la grande surface, tout ça, des gens sont pris à la gorge. Il faut se débarrasser de ce système aussi rapidement qu'on peut le faire. Et puisqu'on a la chance d'avoir une élection devant nous, et qu'il n'y en aura plus pendant 2 ans, et qu'il n'y en aura plus pendant 3 ans, alors c'est la dernière station avant le désert, celle qui arrive. Et il faut s'en emparer, pour aller au bout.
Voilà Jean-Luc Mélenchon qui, dans une interview accordée à BFM, a eu cette formule. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Emmanuel Macron, ce matin sur France Inter, a dit que ça pourrait être un homme ou une femme.
C'est bien joué. Honnêtement, c'est bien joué. Je veux dire, tous les juristes, les politologues diront c'est pas l'esprit de la Ve République. Les Français s'en foutent. C'est bien joué.
Ils s'en foutent tellement qu'en 2017, ça n'avait pas marché. Oui. Hein, parce qu'il avait demandé la même chose.
Exactement. Ah,
non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un message simple. Il existe. Il dit imposer une cohabitation au vainqueur de la présidentielle, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Donc c'est... Enfin, je veux dire...
Et vous pensez que la France insoumise peut obtenir une majorité à l'Assemblée ?
Alors là, le mur est très très haut. La marche est très 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 haute. Et puis surtout, les élections législatives, c'est beaucoup moins une élection pour LFI que la présidentielle, où d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon, qui est un leader controversé, avec un programme très controversé, les médias sont beaucoup plus gentils avec lui, pour le coup. Mais l'élection présidentielle, la campagne présidentielle, c'est son moment. C'est là qu'il donne le meilleur de lui-même, parce que... C'est un grand orateur, parce qu'il électrise les foules. Et le parcours qu'il a fait dans cette élection est formidable en tant que candidat.
Non, mais c'est simple, pour qu'il puisse espérer une majorité à l'Assemblée nationale, il faudrait une union de toute la gauche, au mieux.
Des triangulaires partout.
Et des triangulaires partout. Et Mélenchon refuse de discuter avec ce qui reste du Parti Socialiste. Enfin, il en reste déjà pas mal dans les circonscriptions.
Ils sont bons à l'Assemblée nationale, cela dit, hein, la France insoumise. Il faut le dire, ils n'étaient pas très nombreux, mais c'est des députés qui ont vraiment existé. Contrairement à beaucoup d'autres groupes politiques, je trouve que les députés de la France insoumise ont joué pleinement leur rôle de députés. Ils ont animé la vie politique du pays depuis l'Assemblée nationale. Comme en plus, il y a quand même, il faut le dire, du côté de la République En Marche, c'est un peu des députés godillots, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément des personnalités hyper charismatiques, c'était tous des gens qui venaient d'arriver en politique et qui votaient un peu comme un seul homme, donc il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas d'individualité, contrairement à la France Insoumise, donc il n'aura sans doute pas la majorité, mais ce qui est sûr, c'est que s'il veut jouer la carte de l'Assemblée nationale, il a des personnalités fortes autour de lui, comme je pense à François Ruffin, je pense à Alexis Corbière, que des gens qui incarnent quelque chose et qui peuvent du coup porter une autre forme de combat.
Bon, on n'y est pas encore aux législatives, il y a d'abord le second tour dimanche. On peut suivre la soirée électorale avec Maxime Switek dès 19h en simultané sur RMC et BFM.
Dès 18h sur BFM, dès 19h sur les deux. Je suis désolée. Appelez-moi avant la prochaine fois.
Rutel Grief.
Vendon LCI.
Sur LCI.
Et Julien Arnaud.
Et Julien Arnaud.
Dès 18h30.
Et on vous retrouve lundi. Le nom du nouvel élu. Et puis il y a la soirée électorale de France Culture aussi, il ne faut pas oublier.
Voilà.
Dimanche à partir de 19h45. Mais qui donc est aux commandes de cette soirée? Oh, Patrick Cohen, c'est pour ça qu'on en parle. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouamsi. Le Liban va-t-il remettre Carlos Ghosn à la France? Les autorités françaises ont émis un mandat d'arrêt international à son encontre.
Oui, c'est ce qui ressemble à un coup de pression supplémentaire. Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, fait l'objet depuis ce matin d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice française. Une procédure mise en place dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment d'argent. J'ai pu m'entretenir cet après-midi avec Carlos Ghosn. Il n'est pas surpris par la décision de la justice.
Ce n'est pas une surprise, c'est plutôt la façon dont ça s'est fait qui a été une surprise pour moi, puisque dans un premier temps, je l'ai appris par la presse, alors que normalement, vous devriez quand même l'apprendre directement, ce qui n'a pas été le cas, ni moi ni mes avocats n'étions avertis. Et le mandat d'arrêt est normal pour moi, puisque ça va me permettre d'accéder au dossier du juge d'instruction, ce que je n'ai pas eu jusqu'à maintenant la possibilité de faire.
Les enquêteurs français se fondent sur un audit interne que Renault a transmis à la justice. Ils soupçonnent Carlos Ghosn d'avoir détourné tout ou une partie d'un montant de 15 millions d'euros. Renault aurait versé cette somme à son distributeur basé à Oman. Ce dernier aurait ensuite versé l'argent à une société écran au profit de Carlos Ghosn ou de ses proches. Cet argent pourrait avoir servi à l'achat d'un yacht de 40 mètres. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan se défend d'un quelconque enrichissement personnel.
Il n'y a pas d'enrichissement personnel. En ce qui concerne les abus de biens sociaux, moi j'ai hâte de pouvoir être devant la justice, hein, non pas uniquement devant un juge d'instruction pour le prouver. J'ai répondu à l'ensemble de ces questions. Maintenant, c'est à la justice de trancher s'il y a eu ou pas abus de biens sociaux. Ceci étant dit, quand on parle d'abus de biens sociaux, j'aimerais bien qu'on pose aussi la question aux actionnaires de Renault qui, aujourd'hui, ont perdu, pour les uns, plus des deux tiers de leur valorisation et aux employés de Renault qui voient l'emploi en péril, des ventes en régression et un avenir plus qu'incertain.
Lors de leurs investigations, les magistrats français se sont déplacés deux fois au Liban. En juin 2021, ils avaient procédé à l'audition libre de Carlos Ghosn pendant 5 jours. Aujourd'hui, l'ancien dirigeant du constructeur estime être lâché par les actionnaires de Renault.
J'aurais espéré un petit peu plus de courage dès mon arrestation au Japon. Ça n'a pas été le cas. Je vous signale d'ailleurs que sur la principale accusation, dans ce que j'ai cru comprendre du dossier du juge d'instruction de Nanterre, c'est que la principale accusation qui tourne autour de Oman, je suis quand même surpris que jusqu'à maintenant, Renault, qui soi-disant avait des soupçons sur les relations que j'avais avec le distributeur d'Oman, continue de travailler avec ce distributeur comme si de rien n'était. C'est la même chose en ce qui concerne Nissan, qui a renouvelé le contrat du distributeur d'Oman avec les mêmes actionnaires et avec la même direction.
Outre l'affaire omanaise, la justice française enquête sur 2 soirées privées organisées à Versailles par Carlos Ghosn dans le cadre d'un mécénat entre Renault et le château de Versailles. L'homme d'affaires a l'impression de faire face à un procès politique international.
L'ambassadeur des États-Unis avait dit immédiatement à l'ambassadeur de France, si Carlos Ghosn était le patron de General Motors, il n'aurait passé aucune heure en prison au Japon. Je suis persuadé que le dossier au Japon, qui est à l'origine de tous mes problèmes, et éminemment politique. Les personnes qui ont entrepris ce que j'appelle un coup monté ont obtenu leurs objectifs. Leurs objectifs, c'était quoi? C'était diminuer, voire éliminer l'influence de Renault dans l'Alliance. Et l'Alliance est devenue un zombie, un mort-vivant, puisque finalement, il n'y a pratiquement plus de projets qui se font ensemble.
Alors, on le rappelle, ce mandat d'arrêt international vaut mise en examen dans la loi française, mais il est peu probable que la justice puisse entendre l'ancien patron de Renault en France. Le Liban n'extrade pas ses ressortissants. Carlos Ghosn peut aussi s'abriter derrière une interdiction de sortie du territoire émise le 9 janvier 2020 par le procureur général du Liban. Son passeport lui avait alors été retiré. Il s'exprime en tout cas le regret de ne plus pouvoir venir dans l'Hexagone.
Oui, bien sûr. La France me manque, mes amis me manquent, Paris me manque, et il y a plein d'endroits en France qui ont marqué mon passé. Elle me manque et je suis vraiment navré de ne pas pouvoir y aller. Et je suis comme je suis navré de ne pas pouvoir aller au Brésil visiter ma famille. Et ils sont obligés de venir, sauf ceux qui sont dans l'incapacité de venir pour des raisons de santé.
Voilà pour cet entretien avec Carlos Ghosn. Un mot, David ?
Non, vivement qu'on puisse entrer sur le fond du dossier. Ça fait des années maintenant qu'on parle de tout autre chose que du contenu du dossier. Vivement qu'il y ait une instruction contradictoire et qu'on puisse enfin se faire une idée. Il a des arguments, hein, Carlos Ghosn. Après, dans ce conseil, il y a aussi des soupçons. Donc, vivement qu'on en sache plus.
Merci beaucoup, vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut, bonsoir Mathieu.
Voilà les deux collègues qui se retrouvent. Michel-Édouard Leclerc en guerre contre la loi Egalim.
La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, votée en 2018. Pour rappel, c'était l'épilogue des états généraux de l'alimentation. Entre autres, dans la loi, l'interdiction pour la grande distribution de vendre sous les 10% de marge. J'achète 1 euro, je n'ai pas le droit de revendre à moins d'1,10 €.
La loi alimentation adoptée hier à l'Assemblée nationale prévoit d'interdire les super rabais.
Une loi adoptée définitivement aujourd'hui à l'Assemblée qui est censée permettre de mieux rémunérer les agriculteurs.
L'objectif de la loi alimentation est multiple, permettre aux producteurs de ne pas être écrasés par la grande distribution et redonner de la valeur aux biens alimentaires.
Si le consommateur a de la qualité et le producteur a envie, tant mieux.
Le consommateur va être encore pénalisé. Les prix ne baissent pas, au contraire, ils augmentent. Donc on n'aura plus l'occasion d'avoir des promotions intéressantes, de pouvoir faire profiter les plus démunis.
Et ce matin dans la presse, vous avez peut-être vu cette campagne de communication des magasins Leclerc, je cite, 10% de marge obligatoire en pleine inflation, qui peut encore avaler ça?
Bonsoir Michel-Édouard Leclerc.
Bonsoir.
Bonsoir, belle campagne ce matin dans la presse. Ça fait longtemps que vous êtes contre cette loi, ça date pas d'aujourd'hui.
Ça date de 2018. Alors juste pour, si vous voulez bien rectifier un peu, je suis pas contre la loi Egalim, je suis pas contre la... notamment la dernière mouture qui consiste à privilégier la rémunération des agriculteurs. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, quand on vend du chocolat, du jus d'orange, du café, du coca, on veut faire croire qu'en vendant plus cher ces produits-là, ça obligerait les distributeurs à mieux rémunérer les éleveurs laitiers ou de viande. Et donc, c'était déjà une incongruité. Mais c'était des lois du temps de la déflation où tout le monde avait peur de la guerre des prix, de la concurrence et tout ça. Et je trouve qu'avec la remontée de l'inflation, qui ne fait que commencer de monter, en tout cas qui va continuer à galoper, ce genre de disposition, il faut la chanter.
Alors les agriculteurs, à l'origine, ils l'ont soutenu, cette loi, le développement en tout cas du côté de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Camille Schmitt les a contactés cet après-midi.
Les producteurs agricoles français, ils subissent des hausses de charges que l'on n'a jamais vues. Le gazole dont on a besoin à son exploitation, les intrants que sont les engrais et d'autres produits, les services qui augmentent aussi. Et donc, il faut bien qu'on arrive à couvrir nos coûts de production. Si on venait sur la loi Egalim, mais notamment sur le seuil de revente à perte, ça recréait une guerre des prix entre distributeurs, dont on sait qu'au final, c'est les producteurs qui en subissent la conséquence, parce que c'est des négociations en permanence qui visent à baisser le prix payé aux producteurs. Nous, ce qu'on propose, c'est avant tout, peut-être dans un moment d'inflation fort, qu'on puisse, à travers un chèque alimentation durable, donner les moyens aux plus démunis d'avoir accès à l'alimentation.
Michel-Édouard Leclerc, vous n'êtes pas un peu en train de jouer les consommateurs contre les agriculteurs, là ?
Non, parce que je suis d'accord avec... Il y a une confusion de leur part... Qu'on privilégie la rémunération des agriculteurs français, qu'on fasse passer en premier leur hausse. C'est d'ailleurs le but de la loi Egalim 2 qu'on a tous signé. Et moi, je suis pour, donc c'est pas la, il n'y a pas matière à chercher la bagarre. Par contre, je ne vois pas pourquoi on ferait payer les consommateurs français la rémunération des dividendes de Nestlé, de Coca, et ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Et donc, c'est vrai que c'est des lois complexes. En tout cas, c'est des lois qui datent et qui ne correspondent pas aujourd'hui au besoin de mobiliser chaque professionnel, chaque corporation dans la lutte contre l'inflation. Parce qu'au fond, avoir des prix chers et puis de ne pas vendre, ça n'arrangera personne. Donc l'important aujourd'hui, c'est de faire barrage, ne serait-ce qu'à une surinflation, à la spéculation. Et aujourd'hui, dans l'inflation qu'on nous annonce, on l'a réinitialisé, la faute à l'Ukraine, etc. Mais c'est beaucoup pipeau, quoi.
Ah ouais.
Aujourd'hui, c'est des masses financières énormes.
La spéculation.
C'est beaucoup de spéculation. Le blé ukrainien n'a pas commencé à être semé, ou il commence à être semé. Il y aura un impact. Il y aura une couche supplémentaire selon le degré, le temps de cette guerre, les sanctions, les contre-sanctions. C'est sûr qu'à partir de l'été ou après l'été, il y aura une couche supplémentaire. Il y aura une couche aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais la paralysie des transports dans la mer de Chine suite au Covid, c'est aussi une source d'inflation énorme. Mais
c'est de l'anticipation ou c'est de la spéculation ?
Il y a les deux. Par exemple, aujourd'hui, enfin, moi, je retrouve mon métier tel que je l'ai fait quand j'ai connu mon premier David Pujada. C'était une période d'inflation. Moi, j'ai connu de l'inflation à deux chiffres. Et ça choquait personne qu'on négociait, qu'on faisait le boulot. Et donc, aujourd'hui, il faut réapprendre à négocier. Et d'ailleurs, il faut que les industriels négocient aussi. Parce que quand ils nous arrivent avec des tarifs en fin de filière, c'est presque trop tard. Ils ont déjà eu des factures d'énergie, des factures de transport. Et donc, il faut aujourd'hui refaire le métier. Et puis, chaque corporation a des raisons d'amener ses factures, mais il faut que chaque corporation, chaque entité économique, chaque entreprise fasse son effort aussi. Parce que si ça casse la croissance, si ça casse la consommation, de toute façon, il n'y aura pas de marché.
De façon très concrète, on a beaucoup parlé de pénurie ces derniers jours, ou en tout cas de tension sur certains produits. Vous le constatez chez vous en rayon. Alors, hors huile de tournesol, ça, a priori, c'est problématique partout.
Huile de tournesol, pâte, riz. Il y a une partie qui est provoquée par le comportement des consommateurs eux-mêmes.
Oui, faire des stocks.
C'est angoissant, enfin, tout ce discours. Après, je vous le dis, c'est impressionnant. Il y a quand même des grands industriels de grandes marques qui nous font des enchères à l'envers et qui nous disent, on voit bien qu'ils retiennent les stocks, et qui nous disent, je ne vous livrerai que si vous acceptez 10% de hausse. Parce que là, en ce moment, je vous le révèle, mais bien sûr, ça ne va pas rester comme ça, on va se battre, mais sur un tiers de notre chiffre d'affaires et que celui de la consommation la plus courante, on a des demandes de hausse moyenne de 8,73.
Wow.
Donc, c'est évident qu'on ne laissera pas passer ça. Et en tout cas, on va demander aux grands industriels d'en prendre une partie à leur charge. Il n'y a pas de raison. Et dans la publicité que je fais, je propose que nous-mêmes, nous en prenions une
et
partie à notre charge.
Et cette hausse de 8% là, qu'on vous impose, elle n'est absolument pas justifiée.
Il y a une partie qui est justifiée. Tout le monde a des factures d'électricité qui augmentent, des factures de fuel et tout ça. Mais en même temps, si je les acceptais, vous voyez, si je vous disais ici qu'on va les accepter, c'est bingo pour tous les gens qui ont acheté à terme sur les marchés. La financiarisation, je n'arriverai pas à le dire.
Financiarisation.
Voilà, comme ça, de tous ces marchés des matières premières, fait qu'il y a des tas de gens qui ont des liquidités. Hein, depuis la crise financière de 2008, puis en plus avec les plans Covid, il y a beaucoup de liquidités. Ils trouvent que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas assez rémunérateur d'accompagner la reconversion de l'économie, décarbonée, etc. Donc ils achètent aujourd'hui sur le marché des cacao, sur le marché du café, sur le marché des huiles. Ce n'est pas des industries qui achètent, ce sont des gens qui mettent de l'argent et qui attendent que Michel-Édouard Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan, on soit obligé d'acheter. Donc il ne faut pas non plus se précipiter, c'est nourrir la spéculation. C'est vrai pour les carburants, pareil.
On reste au supermarché avec un autre sujet qui vous concerne, Michel-Édouard Leclerc. Va-t-on devoir apprendre à se passer du ticket de caisse?
Alors, est-ce que vous êtes autour de la table du genre à jeter immédiatement votre ticket, à le garder et à faire méthodiquement votre comptabilité, ou alors, comme moi, à accumuler des tickets de caisse dans le fond d'une poche avant de les jeter quelques semaines plus tard? C'est la loi anti-gaspillage qu'il préconise. Plus d'impression systématique de tickets de caisse en magasin à partir du 1er janvier 2023. Il faudra le demander de façon explicite. Une décision saluée par les responsables de magasins.
Les tickets de caisse, ça représente des centaines et des centaines de kilomètres de tickets et d'arbres, et donc c'est pas du tout écologique, ça, c'est par terre, c'est jeté, c'est pas toujours utilisé.
Okay. Et entre le ticket papier et la version dématérialisée par mail ou rien du tout, les clients sont partagés?
Je trouve ça bien pour l'environnement, et puis si on a une preuve par internet, c'est parfait.
Je suis pas sûr que ça pollue beaucoup parce que c'est un petit ticket, hein, c'est pas grand.
Je veux mon ticket de caisse, absolument. Ça me sert à faire mes comptes et autres, et je veux mon ticket de caisse.
Le papier, bon, c'est peut-être d'une ancienne génération, mais moi c'est ce qui me convient.
J'ai déjà pris l'habitude finalement de pas forcément les prendre à partir du moment où je pense garder l'article. Et après l'alternative du mail, j'ai des doutes, les mails sont quand même polluants.
Alors chaque jour, vous éditez des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres de tickets de caisse. La fin du ticket de caisse dans vos supermarchés?
Non, mais c'est sûr que c'est programmé. C'est comme la fin des catalogues, la fin de trop de papier. Mais on est dans une période très angoissante et donc il faut accompagner les gens. On n'est pas obligé non plus de rajouter. S'il y a de la méfiance, s'il y a besoin de se recaler, tout le monde ne regarde pas son téléphone. Donc il faut accompagner nos clients, le public, avoir le choix. Donc normal, c'est pareil pour. Je crois qu'on va commencer dans certaines villes. On a commencé dans certaines villes. Les clients disent oui pub, non pas de pub, pas de catalogue, etc. C'est pareil pour le ticket de caisse, il faut demander aux gens s'ils le veulent ou pas, et on est capable de faire ça.
Alors tout le monde n'est pas à l'aise avec la dématérialisation, bien sûr, il y a des associations qui s'élèvent pour les 14
c'est
millions
moins
de Français.
C'est grave que la dématérialisation des caissières,
permettre
cette parenthèse.
Ouais. On va pas mettre comment des hologrammes, j'ai vu tout à l'heure votre émission avec des... On va pas mettre
des Jean-Luc Mélenchon, hologramme à la caisse, ça peut faire un tabac.
Mais il peut avoir du succès. Les caisses en livre service à Paris,
c'est... Il y a un collectif d'associations de consommateurs qui réclament que le choix soit systématiquement proposé aux clients, également pour les protéger dans leurs droits.
En supprimant par défaut les tickets de caisse, on va obliger d'une certaine façon les consommateurs à télécharger les applications, à donner leur mail aux professionnels, hein, professionnels qui vont pouvoir eh bien, construire des bases de données pour mieux connaître leurs consommateurs, mais en plus de, en conséquence de ça, eh bien, mettre un petit peu interne à l'anonymat en fait, de la consommation. Et ça, c'est très problématique pour les consommateurs. Hein. Et évidemment, eh bien, la crainte également qu'on peut avoir, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de publicités qui leur soient adressées, publicités qui sont parfois intrusives et qui sont aussi bien souvent non désirées.
Michel-Edouard Leclerc, vous l'avez entendu, ce que dit ce monsieur de l'UFC Que Choisir, c'est une aubaine pour vous. Finalement, vous allez avoir plein d'informations sans ticket de
les
caisse, pour connecter entre le client et sa consommation.
Oui, mais avec ou sans ticket papier. On l'aura, c'est à partir du moment que ce soit par la carte de fidélité, que ce soit par la carte bancaire. Après, il faudra se poser la question de la propriété de ces données. Nous, on se refuse à les commercialiser. Par contre, c'est intéressant de savoir les achats répétitifs. Quand on est sur le drive, quand on est sur Internet, ça nous permet d'éviter les ruptures, ça nous permet d'anticiper que d'avoir cette connaissance-là, ça aide le métier aussi.
David Pujadas,
non, mais
fait ses courses.
C'est facultatif, donc tout va bien. Tu veux ton ticket, tu demandes ton ticket. Tu veux pas le ticket, t'as pas de ticket. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je trouve qu'on a tendance quand même à faire du mal aux mouches, souvent, pour des choses
assez simples.
J'aime bien ça.
Mais on ne peut pas appeler un chat un chat, David.
Ouais. Non, mais tant qu'on a le choix, c'est comme ce que vous disiez sur les caisses automatiques. Moi, il y a des jours où j'enrage qu'il n'y ait que des caisses automatiques. Et puis, quand vous n'avez que trois articles, vous êtes bien content qu'il y ait une caisse automatique, parce que vous vous dépêchez. Oui, quand au contraire, vous avez votre gros caddie, vous êtes bien content qu'il y ait une caissière qui soit là.
Mais je
dans le supermarché le plus proche de chez moi, il ne reste plus qu'une seule caisse.
Mais pareil près de chez moi.
C'est le moment de faire vos
Ça, c'est plus un sujet. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est plus un sujet. Non, mais l'humain dans la vie quotidienne.
Oui. Alors, nous, on recrute. Hein. Je ne veux pas la ramener plus que nécessaire. Mais là, on vient de faire un énorme job dating, comme diraient mes enfants, une journée de recrutement.
Et ça marche ?
Oui, ouais, 7500 personnes. On est 130 000 salariés. On a recruté 7500, dont les caissières, dont la tâche sera moins d'encaisser que d'aider les clients, que de gérer les comptes des clients. Et
il n'y aura pas
un monde pour hologramme. Hein,
il ne faut pas faire du mal aux mouches. Un message à transmettre à Mike Tyson.
Éventuellement, oui. Ce ne sont pas les meilleures nouvelles de Mike Tyson que je vous apporte. Nous sommes à bord d'un vol entre Californie et Floride. Et un passager s'aperçoit qu'il est derrière l'immense star de la boxe, Mike Tyson, 55 ans. Il faut dire ce qu'il est, il est franchement casse-pied.
Relou.
Il l'interpelle, il n'arrête pas de lui parler. Bon, clairement, il joue à l'idiot. Le boxeur lui aurait même demandé de se calmer avant de craqué. On voit littéralement Mike Tyson rouer de coups son voisin de derrière dans l'avion. La scène est à la fois impressionnante et ridicule. On ne sait pas trop où se mettre. On voit ensuite le passager avec du sang sur la tempe. Il n'a toujours pas l'air très malin. Passager qui, selon les médias américains...
Oui, c'est vrai qu'il n'a toujours pas l'air malin.
Il est crispant, tout
à fait. On se demande s'il était à jeun. Ouais. Pour être très honnête, mais on n'a pas la preuve formelle qu'il était alcoolisé. Il y a plusieurs... Voilà. Débat dans la rédaction cet après-midi sur est-ce qu'il a bu ou non. Ce passager qui, selon les médias américains, aurait porté plainte ensuite contre l'ancien champion de boxe.
Bon, je me demande s'il va y avoir un pic de recherche sur Google pour savoir si on peut dire...
faire du mal aux mouches.
Faire du mal aux mouches. David Pujadas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir à lundi sur LCI, 19h. On y va mollo sur LCI lundi à 19h. On aime
à 18h.
Ah, c'est à 18h. On aime de bosser jusqu'à 20h. On aime bien zapper à partir de 19h sur France 5.
Dès 18h, c'est très bien. C'est très bien.
Et Apolline, dimanche soir et lundi. Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc.
Merci.
On est là, nous, jusqu'à 21h, 20h55, avec nos invités Yann Arthus-Bertrand, Jean-Marie Perrier, Nikos Aliagas
et Sonia Sieff.
Et Sonia Sieff, notre spécial photographe, les actualités de Bertrand et l'œil de Pierre. A tout de suite pour le dernier dîner de la semaine.